Le journal de George Fox 1655-1656 Ministère ultérieur et prison de Lancaster page 2-3 nous étant séparés de lui, nous allâmes à Honiton, et à notre auberge nous demandâmes quelles personnes il y avait dans la ville qui craignaient Dieu, et nous les fîmes appeler. Quelques baptistes particuliers répondirent et vinrent à nous, avec lesquels nous eûmes beaucoup de débats. Je leur dis, « Vous tenez votre doctrine de l'élection particulière dans la nature d'Ésaü, de Caïn et d'Ismaël, non dans celle de Jacob, la seconde naissance, mais il faut qu'ils naissent de nouveau avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et comme la promesse de Dieu était faite à la semence, non à plusieurs, mais à un seul, qui est Christ, ainsi l'élection et le choix subsistent en Christ, et ils doivent être de ceux qui marchent dans sa lumière, sa grâce, son esprit et sa vérité. Et nous eûmes encore bien d'autres paroles avec eux. De là nous passâmes à Topsham, et y restâmes pour le premier jour, mais l'aubergiste et les siens étaient grossiers. Le lendemain matin, nous envoyâmes faire quelques démarches auprès des prêtres et des professants, alors quelques professants grossiers vinrent à notre auberge et auraient voulu nous empêcher de partir, si nous n'étions partis quand nous l'avons fait. Je portais une ceinture, que par oubli je laissais derrière moi, et ensuite j'envoyai la chercher auprès de l'aubergiste, mais il ne voulut pas me la rendre. Plus tard, lorsqu'il en eut l'esprit tourmenté, il la brûla afin de ne pas être ensorcelé par elle, comme il disait, pourtant, après l'avoir brûlée, il fut plus tourmenté qu'auparavant. Malgré la grossièreté du lieu, certains furent convaincus, et une réunion fut ensuite établie dans cette ville, et elle a continué depuis lors. Après cela nous passâmes à Totne, une ville sombre. Nous y logeâmes, dans une auberge, et cette nuit-là Edward Pio fut malade, mais la puissance du Seigneur le guérit, de sorte que le lendemain nous arrivâmes à Kingsbridge, et à notre auberge nous nous informâmes des personnes sobres de la ville. On nous indiqua Nicholas Tripp et sa femme, et nous allâmes chez eux. Ils firent venir le prêtre, avec qui nous eûmes quelques discussions, mais il fut confondu et nous quitta promptement. Mais Nicholas Tripp et sa femme furent convaincus, et depuis lors il y a eu une bonne réunion d'amis dans ce pays-là. Le soir, nous retournâmes à notre auberge. Il y avait beaucoup de gens qui buvaient dans la maison, et je fus poussé par le Seigneur à aller parmi eux et à les diriger vers la lumière, dont Christ, l'homme céleste, les avait éclairés et par laquelle ils pouvaient voir toutes leurs mauvaises voies, paroles et actions. Et par cette même lumière ils pouvaient aussi voir Christ Jésus leur Sauveur. L'aubergiste se tenait mal à l'aise, voyant que cela empêchait ses clients de boire, et dès que les derniers mots furent sortis de ma bouche, il saisit la chandelle et dit « Venez, voici une lumière pour que vous alliez dans votre chambre. » Le lendemain matin, lorsqu'il fut calmé, je lui en parlai et lui dis « Combien il était incivil d'agir ainsi. » Puis, l'avertissant du jour du Seigneur, nous nous préparâmes et partîmes. Le lendemain nous arrivâmes à Plymouth, nous nous rafraîchîmes à notre auberge et allâmes chez Robert Carey, où il y eut une réunion très précieuse. À cette réunion se trouvait Elizabeth Trelawney, fille d'un baronnet. Elle entendant un peu mal, s'approcha tout près de moi et posa son oreille tout contre moi pendant que je parlais, et elle fut convaincue. Après cette réunion, des baptistes portés à la dispute doctrinale arrivèrent, mais la puissance du Seigneur vint sur eux, et Elizabeth Trelawney rendit témoignage à la puissance, elle vint et dit que George est au-dessus de tout, et d'une voix forte. Une belle réunion fut établie là dans la puissance du Seigneur, et elle a continué depuis lors, où beaucoup d'amis fidèles ont été convaincus. De là nous passâmes en Cornouailles, et arrivâmes à une auberge dans la paroisse de Monaigno. Le soir, nous tîmes une réunion chez Edward Hancock, à laquelle vinrent Thomas Mounsey et un prêtre, avec un grand nombre de personnes. Nous amenâmes, le prêtre a confessé qu'il était un ministre fait par l'État et entretenu par l'État, et il fut couvert de honte et réduit au silence, puis s'en alla, mais beaucoup de gens restèrent. Je les dirigeai vers la lumière de Christ, par laquelle ils pouvaient voir leurs péchés, et leur Sauveur Christ Jésus, le chemin vers Dieu, leur médiateur pour faire la paix entre Dieu et eux, leur berger pour les nourrir, et leur prophète pour les enseigner. Je les dirigeai vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, par lequel ils pouvaient connaître les Écritures et être conduits dans toute la vérité, et par l'Esprit connaître Dieu, et en lui avoir l'unité les uns avec les autres. Beaucoup furent convaincus à ce moment-là et se placèrent sous l'enseignement de Christ, et il y a maintenant de beaux rassemblements au nom de Jésus dans ces contrées. Nous voyageâmes de là en passant par Penrhyn et arrivâmes à Helston, mais nous ne pûmes trouver les noms ni les lieux d'aucune personne sobre à cause de la dépravation des aubergistes. Enfin, nous arrivâmes dans un village où vivaient quelques baptistes et des gens sobres, avec lesquels nous eûmes discussion. Certains d'entre eux furent amenés à confesser qu'ils trébuchaient sur la lumière de Christ. Ils souhaitaient que nous restions avec eux, mais nous partîmes pour Market Jew, et ayant pris logement dans une auberge, nous envoyâmes ce soir-là des messages pour nous enquérir de ceux qui craignaient le Seigneur. Le lendemain matin, le maire et les échevins se rassemblèrent avec le haut shérif du comté et envoyèrent les constables pour nous ordonner de comparaître devant eux. Nous leur demandâmes leur mandat, et comme ils disaient ne pas en avoir, nous leur dîmes que nous n'irions pas avec eux sans mandat. Au retour des constables sans nous, ils envoyèrent leur sergent, et nous leur demandâmes leur mandat. Ils dirent n'en avoir aucun, mais nous dirent que le maire et les échevins nous attendaient. Nous leur dîmes que le maire et sa compagnie ne faisaient pas bien de nous importuner dans notre auberge, et que nous n'irions pas avec eux sans mandat. Ils s'en allèrent donc et revinrent, et lorsque nous leur demandâmes leur mandat, l'un d'eux tira sa masse de dessous son manteau. Nous leur demandâmes si c'était leur coutume de molester et tourmenter les étrangers dans leurs auberges et logements. Après quelque temps, Edward Pio alla trouver le maire et les échevins et eut beaucoup de discussions avec eux, mais la puissance du Seigneur lui donna domination sur eux tous. Lorsqu'il revint, plusieurs officiers vinrent à nous, et nous leur exposâmes l'incivilité et l'indignité de leur conduite envers nous, serviteurs du Seigneur Dieu, en nous arrêtant et en nous troublant dans nos auberges et logements, et combien c'était un acte non chrétien. Avant de quitter la ville, j'écrivis un petit papier destiné à être envoyé aux 7 paroisses du Lord's End, dont une copie suit. Le puissant jour du Seigneur est venu et vient, où tous les cœurs seront manifestés, et les secrets du cœur de chacun seront révélés par la lumière de Jésus, qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous les hommes croient par lui, et que le monde ait la vie par lui, qui a dit « Apprenez de moi » et dont Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Christ est venu enseigner lui-même son peuple, et quiconque n'écoutera pas ce prophète que Dieu a suscité, et dont Moïse a parlé lorsqu'il a dit « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, c'est lui que vous écouterez, quiconque, dis-je, n'écoutera pas ce prophète doit être retranché. Ceux qui méprisaient la loi de Moïse mourraient par la main de deux ou trois témoins, mais combien plus grand châtiment viendra sur ceux qui négligent ce grand salut, Christ Jésus, qui a dit, « Apprenez de moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, lui qui éclaire tout homme venant dans le monde, cette lumière lui fait voir ses mauvaises voies et ses mauvaises actions. » Mais si vous haïssez cette lumière et persévérez dans le mal, cette lumière sera votre condamnateur. Ainsi donc, maintenant que vous en avez le temps, estimez-la, car voici le jour de votre visitation, et le salut vous est offert. Chacun de vous a une lumière venant de Christ, elle vous fait voir que vous ne devez ni mentir, ni faire du tort à qui que ce soit, ni jurer, ni maudire, ni prendre le nom de Dieu en vain, ni voler. C'est la lumière qui vous montre ses mauvaises actions. Si vous l'aimez, si vous venez à elle et la suivez, elle vous conduira à Christ, qui est le chemin vers le Père, d'où elle vient, là n'entre ni injustice ni impiété. Si vous haïssez cette lumière, elle sera votre condamnation, mais si vous l'aimez et venez à elle, vous viendrez à Christ, et elle vous détournera de tous les maîtres et de toutes les voies du monde pour apprendre de Christ, et elle vous préservera de tous les maux du monde et de tous les séducteurs qui s'y trouvent. George Fox, un ami qui était avec moi, avait ce papier sur lui, et lorsque nous eûmes fait 3 ou 4 milles depuis Marquette vers l'ouest, nous rencontrâmes un homme sur la route et lui donnâmes une copie du papier ci-dessus. Dès que Will Salt me dit qu'il avait donné le papier à cet homme, j'eus une vision d'être fait prisonnier, plusieurs milles avant que cela n'arrive. Pour avoir donné à cet homme une copie du papier ci-dessus, George Fox, Edward Pio et William Salt furent plus tard envoyés en prison. Cet homme se trouva être un serviteur de Pete Seeley, major dans l'armée et juge de paix dans ce comté. Il chevaucha devant nous jusqu'à un endroit appelé Saint. Yves et montra le papier à son maître. Quand nous arrivâmes à Yves, le cheval d'Edward Pio avait besoin de nouveaux fers. Tandis qu'on le ferrait, je marchais jusqu'au bord de la mer. Quand je revins, je trouvai la ville en émoi. Il traînait Edward Pio et l'autre ami devant le major Seeley. Je les suivis dans la maison du juge, bien qu'il ne m'ait pas mis la main dessus. Quand nous entrâmes, la maison était pleine de gens grossiers, alors je demandai s'il y avait parmi eux un officier pour tenir le peuple dans la civilité. Le major Seeley dit qu'il était magistrat. Je lui dis, « Alors vous devriez montrer gravité et sobriété et user de votre autorité pour maintenir les gens dans la civilité, car je n'ai jamais vu de gens plus grossiers, les Indiens étaient probablement plus chrétiens qu'eux. » Après un moment, ils produisirent le papier mentionné et demandèrent s'il était de moi. Je dis que oui. Alors il nous proposa le serment d'abjuration, sur quoi je mis la main dans ma poche et en sortis la réponse qui avait été donnée au protecteur. Après la lui avoir remise, il nous interrogea tous, l'un après l'autre. Il avait avec lui un jeune prêtre sot, qui nous posa quantité de questions frivoles. Parmi ces questions, il souhaita me couper les cheveux, alors assez longs, mais je ne devais pas les couper, bien que beaucoup s'en offusquassent. Je leur dis, « Je n'en ai aucune fierté, et ce n'est pas de mon fait s'ils sont longs. » Finalement, le juge nous plaça sous la garde de soldats, durs et sauvages, comme le juge lui-même. Néanmoins, nous avertîmes le peuple du jour du Seigneur et lui déclarâmes la vérité. Le lendemain, il nous envoya, gardé par un détachement de cavaliers avec épée et pistolet, qui nous conduisit à Redruth. Le premier jour, les soldats voulaient que nous voyagions avec eux, mais nous leur dîmes que c'était leur sabbat et qu'il n'était pas d'usage de voyager ce jour-là. Plusieurs habitants de la ville se rassemblèrent autour de nous, et tandis que je retenais les soldats en discussion, Edward Pio parla au peuple, puis ensuite Edward Pio retint les soldats en discussion pendant que je parlais au peuple. Entre-temps, l'autre ami se retira à l'écart et alla à la stipelouse pour parler aux prêtres et au peuple. Les gens étaient extrêmement désespérés, dans une grande rage contre lui, et l'insultèrent. De plus, quand les soldats s'aperçurent de son absence, ils entrèrent dans une grande fureur et parurent prêts à nous tuer. Mais je déclarai au peuple rassemblé autour de nous le jour du Seigneur et la parole de vie éternelle. L'après-midi, les soldats étaient résolus à nous emmener, nous montâmes donc à cheval et partîmes. Lorsque nous eûmes chevauché jusqu'à l'extrémité de la ville, je fus poussé par le Seigneur à revenir encore parler au vieil homme de la maison. Les soldats tirèrent leurs pistolets et jurèrent que je ne retournerais pas. Mais je ne les écoutai pas et je revins à cheval, et ils me suivirent. Ainsi je me déchargeai auprès du vieil homme et du peuple, puis je repris la route avec les soldats, les reprenant en chemin de leur grossièreté et de leur violence. Le soir, on nous mena dans une ville alors appelée Smessick, renommée Falmouth. C'était le soir du premier jour, et le constable en chef du lieu, ainsi que beaucoup de gens sobres, vinrent à notre auberge. Certains commencèrent à poser des questions à notre sujet. Nous leur dîmes que nous étions prisonniers pour la vérité, et nous eûmes avec eux une longue discussion au sujet des choses de Dieu. Ils furent très sobres et très affectueux envers nous. Quelques-uns furent convaincus et restèrent fidèles par la suite. Quand le constable et ses gens furent partis, d'autres entrèrent, qui furent eux aussi très civils, et ils s'en allèrent avec beaucoup d'affection. Quand tout le monde fut parti, nous montâmes dans notre chambre pour nous coucher, et vers la 11e heure, Edward Pio dit « Je vais fermer la porte, il se pourrait que quelqu'un vienne pour nous faire du mal ». Plus tard, nous apprîmes que le capitaine Keith, qui commandait le détachement, avait proposé de nous attaquer cette nuit-là, mais la porte étant verrouillée, il manqua son dessein. Le lendemain matin, le capitaine Keith amena un parent à lui, un homme grossier et méchant, et le mit dans la chambre, tandis que lui-même se tenait dehors. Cet homme, animé de mauvais sentiments, allait et venait dans la chambre en soufflant, je lui dis de craindre le Seigneur. Sur quoi il se jeta sur moi, me frappa des deux mains, et plaçant sa jambe derrière moi, il aurait voulu me renverser s'il l'avait pu, mais il n'en fut pas capable, car je restai droit et immobile, le laissant frapper. Comme je regardais vers la porte, je vis le capitaine Keith qui regardait et observait son parent me battre et m'abuser. Alors je lui dis, « Keith, permettez-vous cela ?» Il dit que oui. Je dis, « Est-ce viril ou civil de nous avoir sous garde et de faire venir un homme pour nous maltraiter et nous battre ? Est-ce viril, civil ou chrétien ?» Je demandai à l'un de nos amis d'envoyer chercher les constables, et ils vinrent. Puis je demandai au capitaine de laisser les constables voir son mandat ou ordre par lequel il nous avait arrêtés. Ce qu'il fit, et son mandat était de nous conduire en sûreté au capitaine Fox, gouverneur du château de Pandeny, et si le gouverneur n'était pas chez lui, il devait nous conduire à la prison de Launceston. Je lui dis qu'il avait enfreint son ordre à notre égard, car nous, ses prisonniers, devions être conduits en sûreté, mais il avait amené un homme pour nous battre et nous maltraiter. Ainsi, ayant rompu son ordre, je souhaitais que le constable garde le mandat. En conséquence, il le fit et dit aux soldats qu'ils pouvaient s'en aller, car ils se chargeraient des prisonniers, et si l'escorte nous coûtait 20 shillings en frais, ils ne récupéreraient pas le mandat. Je montrai aux soldats la bassesse de leur conduite envers nous, et ils allèrent et vinrent dans la maison, déçus, lamentablement abattus et déconcertés. Les constables allèrent au château et dirent aux officiers ce qu'ils avaient fait. Les officiers montrèrent une grande désapprobation de la conduite vile du capitaine Keith envers nous, et ils dirent au constable que le major général Disbur venait à Bodmin et que nous le rencontrerions, et il était probable qu'il nous libérerait. Pendant ce temps, notre ancienne garde de soldats vint vers nous en nous suppliant et promit d'être civil envers nous, si nous voulions aller avec eux. Cela prit la majeure partie de la matinée jusqu'à environ 11 heures, puis, sur les supplications des soldats et leur promesse d'être plus civils, les constables leur rendirent l'ordre, et nous partîmes avec eux. La civilité et la courtoisie des constables et des gens de cette ville furent grandes envers nous. Ils nous reçurent avec bonté, et le Seigneur les récompensa par sa vérité, car beaucoup d'entre eux ont depuis été convaincus de la vérité et sont rassemblés dans le nom de Jésus, et s'assoient sous Christ, leur Maître et Sauveur. Le capitaine Keith, qui commandait notre garde, sachant que le capitaine Fox, gouverneur du château de Pandeny, était parti à la rencontre du major général Disbur, ne nous y conduisit pas, mais nous mena directement à Bodmin, sur la route de Launceston. nous rencontrâmes le major général Disbeau en chemin. Le capitaine de sa troupe qui chevauchait devant lui me connaissait et dit « Oh M. Fox, pourquoi êtes-vous ici ?» Je répondis « Je suis prisonnier, hélas, dit-il, pourquoi ?» Je lui dis « J'ai été arrêté en voyage. » « Alors, dit-il, je parlerai à mon seigneur et il vous remettra en liberté. » Ainsi il quitta la tête de sa troupe, s'approcha du coche et parla au major général. Nous lui racontâmes aussi comment nous avions été arrêtés. Il se mit à parler contre la lumière de Christ, ce que je lui reprochais. Puis il dit aux soldats qu'ils pouvaient nous escorter à Launceston, car ils ne pouvaient rester pour parler avec nous, de peur que ses chevaux ne prennent froid. Ainsi on nous conduisit à Bodmin cette nuit-là, et lorsque nous arrivâmes à notre auberge, le capitaine Kit, qui y était arrivé avant nous, me mit dans une chambre et s'en alla. Quand j'entrai dans la chambre, un homme s'y tenait, un rapier nu à la main. Alors je sortis de la chambre et appelai le capitaine Kit, et lui dis « Quoi encore, Kit, quel tour avez-vous encore joué de me mettre dans une chambre où il y a un homme avec sa rapière nue? Quel est votre but ?»« Oh, dit-il, je vous prie, tenez votre langue, car si vous parlez à cet homme, nous ne pouvons pas le maîtriser, il est si diabolique. » Alors, dis-je, vous me mettez dans une chambre où se trouve un homme incontrôlable avec une rapière nue? Quel tour indigne et vil, et me mettre seul dans cette chambre, loin du reste de mes amis qui étaient prisonniers avec moi? Ainsi leur complot fut découvert, et le mal qu'ils voulaient faire fut empêché. Ensuite, nous obtîmes une autre chambre, où nous restâmes ensemble toute la nuit, et le soir nous déclarâmes la vérité au peuple, mais ils étaient dans les ténèbres et endurcis. Les soldats, malgré leurs belles promesses, furent de nouveau très grossiers et méchants envers nous, et restèrent à boire et à rugir toute la nuit. Le lendemain, on nous conduisit à Launceston, où le capitaine Kit nous remit au geôlier. Or, il n'y avait près de nous aucun ami ni gens amicaux, et les gens de la ville étaient un peuple sombre et endurci. Le geôlier exigea de nous 7 shillings par semaine pour la nourriture de nos chevaux, et 7 shillings par semaine chacun pour notre nourriture. Au bout de quelque temps, plusieurs personnes sobres vinrent nous voir, et quelques habitants de la ville furent convaincus, et beaucoup de gens amicaux, venus de diverses parties du pays, vinrent nous visiter et furent convaincus. Alors une grande rage s'éleva contre nous parmi leurs professants et leurs prêtres. Ils disaient « Ces gens tutoient tout le monde sans égard, et ne veulent pas ôter leur chapeau, ni plier le genou devant aucun homme, mais nous verrons bien, quand viendront les assises, s'ils oseront tutoyer le juge et garder leur chapeau devant lui. » Ils s'attendaient à ce que nous fussions pendus aux assises, mais tout cela nous inquiéta fort peu, car nous voyions comment Dieu ternirait l'honneur et la gloire du monde, et il nous était commandé de ne pas rechercher cet honneur ni de rendre honneur à l'homme, mais nous connaissions l'honneur qui vient de Dieu seul, et c'est celui-là que nous recherchions. Il s'écoula 9 semaines entre notre incarcération et les assises, et alors beaucoup de gens vinrent de loin et de près pour entendre le procès des Quakers. Le capitaine Braden campait là avec sa troupe de cavalerie, et ses soldats ainsi que les hommes du shérif nous escortèrent jusqu'au tribunal à travers la multitude qui remplissait les rues, et ils eurent peine à nous faire passer au milieu de la foule. De plus, les portes et les fenêtres étaient pleines de gens qui nous regardaient. Lorsqu'on nous introduisit dans le tribunal, nous restâmes assez longtemps avec nos chapeaux sur la tête, et tout était calme, et je fus poussé à dire « Que la paix soit parmi vous ». Le juge Glynn, un Gallois, alors Lord Chief Justice d'Angleterre, dit au geôlier « Qui sont ceux que vous avez amenés ici devant le tribunal ?»« Des prisonniers, monseigneur, dit-il. Pourquoi n'ôtez-vous pas vos chapeaux ?» nous dit le juge. « Nous ne dîmes rien. »« Ôtez vos chapeaux, dit encore le juge. Nous ne dîmes toujours rien. » Alors le juge dit « Le tribunal vous ordonne d'ôter vos chapeaux. » Alors je parlai et dis « Où a-t-on jamais vu un magistrat, un roi ou un juge de Moïse à Daniel, ordonner à quelqu'un d'ôter son chapeau lorsqu'il se présentait devant eux dans leurs tribunaux, soit parmi les Juifs, le peuple de Dieu, soit parmi les païens ? Et si la loi d'Angleterre commande une telle chose, montrez-moi cette loi, écrite ou imprimée. » Le juge se mit très en colère et dit « Je ne porte pas mes livres de loi sur mon dos. » Mais dis-je, dites-moi où c'est imprimé dans un recueil de statuts afin que je puisse le lire. Alors le juge dit, emmenez-le, chicaneur. Je vais le rosser. On nous emmena donc et on nous mit parmi les voleurs. Peu après, il appela le geôlier, ramenez-les ici. Allons, dit-il, où est-il dit qu'ils avaient des chapeaux de Moïse à Daniel? Allons, répondez-moi, je vous tiens maintenant. Je répondis, vous pouvez lire au 3e chapitre de Daniel que les 3 enfants furent jetés dans la fournaise ardente sur l'ordre de Nabuchodonosor, avec leurs manteaux, leurs chausses et leurs chapeaux. Cet exemple clair l'arrêta, de sorte que, n'ayant rien d'autre à opposer, il cria encore « Emmenez-les, geôliers !» En conséquence, on nous emmena et on nous poussa parmi les voleurs, où l'on nous garda longtemps. Puis, sans qu'on nous rappelle, les hommes du shérif et les cavaliers nous ouvrirent un passage à travers la foule et nous reconduisirent en prison, une multitude de gens nous suivant et avec lesquels, à la prison, nous avions eu beaucoup de discussions et de raisonnements. Nous avions quelques bons livres pour exposer nos principes et informer les gens de la vérité, ce dont le juge et les justices ayant entendu parler, ils envoyèrent le capitaine Braden les prendre, il vint et nous arracha violemment nos livres. Certains livres furent même arrachés des mains d'Edward Pio, et ils les emportèrent, ainsi nous ne les récupérâmes jamais. L'après-midi, le geôlier, les hommes du shérif et les cavaliers nous menèrent de nouveau dans la chambre du juge, ayant beaucoup de peine à nous faire passer à travers la foule. Quand nous fûmes dans le tribunal, attendant d'être appelés et voyant les jurés et beaucoup d'autres jurés, ma vie fut peinée de voir que ceux qui professaient le christianisme désobéissaient ainsi ouvertement et transgressaient le commandement de Christ et celui de l'apôtre Jacques. Et je fus poussé par le Seigneur à produire un papier contre le serment, à cause de tous ces serments autour de moi, pour les grands et petits juries. Concernant le serment, prenez garde de faire prêter des serments aux gens, car Christ, notre Seigneur et Maître, a dit « Ne jurez point du tout, mais que votre parole soit oui, oui, et non, non, car tout ce qu'on y ajoute vient du mal. » Si quelqu'un devait souffrir la mort, ce devait être par la main de deux ou trois témoins, et les mains des témoins devaient être les premières sur lui pour le mettre à mort. L'apôtre Jacques a dit, « Mes frères, surtout, ne jurez point, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment, de peur que vous ne tombiez sous la condamnation. Ainsi vous pouvez voir que ceux qui jurent tombent sous la condamnation et sont en dehors de la doctrine de Christ et de l'apôtre. Chacun de vous a une lumière venant de Christ qui a dit, « Je suis la lumière du monde » et qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il a dit, « Apprenez de moi, sa doctrine, comme celle de l'apôtre, est de ne pas jurer, mais que votre oui soit oui, et votre non soit non, dans toutes vos paroles, car tout ce qu'on y ajoute est mal, ceux qui vont au-delà de oui et non entrent dans le mal et sortent de la doctrine de Christ. Si vous dites que le serment mettait fin aux controverses et aux crêles, ceux qui sont dans la crêle sont en dehors de la doctrine de Christ, car il est l'alliance de paix, et ceux qui sont en elle sont dans l'alliance de paix. » L'apôtre n'en parle que comme d'un exemple. Les hommes jurant par le plus grand, et le serment mettant fin aux controverses et aux crêles parmi les hommes, disant « En vérité, les hommes jurent par le plus grand, mais Dieu, n'ayant rien de plus grand, jure par lui-même au sujet de Christ, lequel est venu et a enseigné de ne pas jurer du tout. Ainsi ceux qui sont en lui et le suivent ne peuvent que demeurer dans sa doctrine. Si vous dites « Il jurait sous la loi et sous les prophètes, Christ est la fin de la loi et des prophètes pour quiconque croit en vue de la justice. » Maintenant remarquez, si vous croyez, je suis la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant dans le monde, a dit Christ, par qui le monde a été fait. Maintenant, chacun de vous qui est venu dans le monde est éclairé par une lumière venant de Christ, par qui le monde a été fait, afin que vous croyiez tous par lui, voilà pourquoi il vous éclaire. Or, si vous croyez en la lumière, comme Christ le commande, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière, vous croyez en Christ et venez apprendre de lui, qui est le chemin vers le Père. C'est cette lumière qui montre vos mauvaises actions, les actes impies que vous avez commis, les paroles impies que vous avez prononcées, et tous vos serments, vos paroles maudissantes et vos actes impies. Si vous prêtez l'oreille à cette lumière, elle vous fera voir tout ce que vous avez fait contre elle, et en l'aimant, elle vous détournera de vos mauvaises actions, de vos mauvaises voix et de vos mauvaises paroles, vers Christ qui n'est pas du monde, mais il est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde et témoigne contre le monde que ses œuvres sont mauvaises. Ainsi la lumière en chaque homme, reçue de lui, témoigne contre toutes les œuvres mauvaises, qu'elles sont contraires à la lumière, et chacun rendra compte, au jour du jugement, de toute parole oiseuse qui est prononcée. Cette lumière amènera toute langue à confesser « oui » et tout genou à fléchir, au nom de Jésus. Dans cette lumière, si vous croyez, vous ne viendrez pas en condamnation, mais à Christ, qui n'est pas du monde, à lui par qui le monde a été fait. Mais si vous ne croyez pas en la lumière, voici votre condamnation, la lumière, a dit Christ. George Fox, ce papier circulant parmi eux du jury aux justices, ils le présentèrent au juge. Ainsi, lorsque nous fûmes appelés devant le juge, il dit au greffier de me donner le papier, puis me demanda si ce papier séditieux était de moi. Je lui dis, s'il le lisait entièrement en audience publique afin que je l'entende, si c'est le mien, je le reconnaîtrai et m'y tiendrai. Il aurait voulu que je le prenne et que je le regarde dans mon écriture, mais je demandai de nouveau qu'il soit lu, afin que tout le pays l'entende et juge s'il y a quelque sédition ou non, car s'il y en a, je suis prêt à en souffrir. Enfin, le greffier des assises le lut à haute voix, afin que tout le peuple l'entende. Quand il eut fini, je leur dis, « C'est mon papier, et je le reconnaîtrai, et vous pourriez le reconnaître vous aussi, à moins que vous ne vouliez nier l'écriture, Car n'est-ce pas le langage de l'Écriture, les paroles et les commandements de Christ et de l'apôtre, que tous les vrais chrétiens doivent obéir ? Alors ils laissèrent ce sujet, et le juge recommença contre nous à propos de nos chapeaux, disant au geôlier de les enlever, ce qu'il fit, et les nous donnant, nous les remîmes. Nous demandâmes au juge et aux justices pourquoi nous étions en prison depuis 9 semaines, puisqu'à présent ils ne nous reprochaient rien d'autre que nos chapeaux. Quant au fait d'ôter nos chapeaux, je leur dis que c'était cet honneur que Dieu mettrait dans la poussière, parce qu'il le rendait si important, l'honneur qui vient des hommes et que les hommes cherchent les uns auprès des autres, et qui est une marque d'incrédule. Car comment pouvez-vous croire, a dit Christ, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, Christ a dit, je ne reçois pas de gloire des hommes, et tous les vrais chrétiens devraient être de son esprit. Alors le juge se mit à faire un discours pompeux sur la manière dont il représentait la personne du Lord Protecteur, qu'il avait fait Lord Chief Justice d'Angleterre et l'avait envoyé dans ce circuit, etc. Nous le priâmes alors de nous rendre justice pour notre fausse incarcération, que nous avions subie pendant 9 semaines injustement. Mais au lieu de cela, ils produisirent un acte d'accusation dressé contre nous, une chose si étrange et si pleine de mensonges que je pensais qu'ils visaient certains des voleurs. Que nous étions venus avec force et armes, et d'une manière hostile, dans le tribunal, nous qui avions été amenés comme il a été dit. Je leur dis, c'est entièrement faux, et nous crions toujours justice pour notre fausse incarcération, ayant été saisis en voyage sans cause par le major Seely. Alors ce piteux Seely dit au juge, qu'il vous plaise, mon seigneur, cet homme me montrant du doigt, s'est mis à l'écart avec moi et m'a dit combien je pourrais être utile à son dessein, qu'il pouvait lever 40 000 hommes en une heure de préavis, plonger la nation dans le sang et ainsi faire revenir le roi Charles. Je voulais l'escorter hors du pays, mais il n'a pas voulu partir. S'il vous plaît, mon seigneur, j'ai un témoin pour le jurer. Ainsi il appela son témoin, mais le juge n'étant pas pressé d'examiner le témoin, je demandai qu'il lui plaise de faire lire mon mandat devant le tribunal et le pays, où était signifié mon crime pour lequel j'avais été envoyé en prison. Le juge dit qu'il ne serait pas lu. Je dis « il devrait l'être, puisqu'il concerne ma liberté et ma vie ». Le juge dit encore « il ne sera pas lu ». Je dis « il devrait être lu, car si j'ai fait quoi que ce soit digne de mort ou de lien, que tout le pays le sache ». Alors, voyant qu'il ne le lirait pas, je dis à l'un de mes compagnons de captivité « tu en as une copie, lis-la ». Le juge dit « il ne sera pas lu ». Je l'y ai emmené-le. Je verrai s'il sera maître, lui ou moi. Ainsi on m'emmena, et au bout d'un moment on me rappela. Je demandai encore que le mandat fût lu, car il indiquait la cause de mon emprisonnement. Je demandai de nouveau à mon ami et compagnon de captivité de le lire, ce qu'il fit, et le juge, les justices et tout le tribunal restèrent silencieux, car le peuple était avide de l'entendre. Il était ainsi, Peter Seely, l'un des juges de paix de ce comté, au gardien de la prison de Salter à Launceston, ou à son adjoint légal à cet effet, salut. Je vous envoie ici par les porteurs des présents les corps d'Edward Pio de Bristol et de George Fox de Dreton et de Clay dans le Leicestershire et de William Salt de Londres, lieu qu'ils prétendent être ceux de leur demeure, lesquels passent sous la croyance des Quakes et reconnaissent être tels, lesquels ont répandu plusieurs papiers tendant à troubler la paix. Il vous est donc, au nom de Sa Altesse le Lord Protecteur, enjoint et commandé que, lorsque les corps d'Esdy Edward Pio, George Fox et William Salt vous seront amenés, vous les receviez et, dans la prison de Sa Altesse susmentionnée, les gardiez en sûreté jusqu'à ce qu'ils soient délivrés selon le cours dû de la loi. N'y manquez point, sous peine d'en répondre au contraire à vos risques, donnez sous ma main et mon sceau à Saint Yves le 18 jour de janvier 1655, P. Seely. Quand cela fut lu, je parlai ainsi aux juges et aux justices, vous qui dites être le Lord Chief Justice d'Angleterre, et vous justice, sachez que si j'avais fourni des cautions, j'aurais pu aller où il me plaisait et poursuivre le dessein, si j'en avais eu un dont le major Seely m'accuse. Et si j'avais prononcé envers lui les paroles qu'il a ici déclarées, jugez vous-même si, en pareil cas, une caution ou un engagement aurait pu être reçu. Puis, tournant mon discours vers le major Seely, je dis, « Quand et où vous ai-je pris à part ? Votre maison n'était-elle pas pleine de gens grossiers, et vous étiez aussi grossiers que n'importe lequel d'entre eux lors de notre examen ? Au point que je demandais un constable ou quelque autre officier pour tenir les gens dans la civilité. Mais si vous êtes mon accusateur, pourquoi siégez-vous sur le banc ? Ce n'est pas la place des accusateurs de siéger avec le juge. Vous devriez descendre et vous tenir près de moi, et me regarder en face. De plus, je demanderai au juge et aux justices si le major Seely n'est pas coupable de cette trahison dont il m'accuse, pour l'avoir si longtemps dissimulée, comprend-il sa place, soit comme soldat, soit comme juge de paix ? Car il vous dit ici que je me suis mis à l'écart avec lui et lui et dit quel dessein j'avais en main et combien il pourrait être utile à mon dessein, que je pouvais lever 40 000 hommes en une heure, faire revenir le roi Charles et plonger la nation dans le sang. Il dit en outre qu'il m'aurait aidé à sortir du pays, mais que je n'ai pas voulu partir, et qu'ainsi il m'a mis en prison faute de caution pour bonne conduite, comme le mandat le déclare. Ne voyez-vous pas clairement, maintenant, que le major Sealy est coupable de ce complot et de cette trahison dont il parle, et qu'il s'en est rendu parti en me désirant de sortir du pays, en me demandant une caution, et en ne me chargeant de cette prétendue trahison que maintenant, sans la révéler. Mais je nie et j'aborde ses paroles, et je suis innocent de son dessein diabolique. Ainsi cette affaire fut abandonnée, car le juge vit assez clairement que, loin de m'entraver, il s'était entravé lui-même. Le major Sealy se releva et dit, « S'il vous plaît, mon seigneur, de m'entendre, cet homme m'a frappé et m'a porté un coup comme je n'en ai jamais reçu de ma vie. » À cela je souris en mon cœur et dis, « Major Sealy, êtes-vous juge de paix et major d'une troupe de cavalerie, et dites-vous au juge, devant le tribunal et le pays, que moi, prisonnier, je vous ai frappé et vous ai porté un coup tel que vous n'en avez jamais reçu de semblable de votre vie, quoi, n'en avez-vous pas honte ?»« Je vous prie, monsieur le major Sealy, dis-je, où vous ai-je frappé, et qui est votre témoin pour cela, qui était là ?» Il dit que c'était sur le Castle Green, et que le capitaine Braden se tenait là quand je l'ai frappé. Je demandai au juge de le laisser produire son témoin pour cela, et j'en appelai de nouveau au major Sealy pour qu'il descende du banc, lui disant qu'il n'était pas convenable que l'accusateur siège comme juge au-dessus de l'accusé. Lorsque je réclamai encore son témoin, il dit que le capitaine Braden était son témoin. Alors je dis, « Parlez, capitaine Braden, m'avez-vous vu lui donner un tel coup et le frapper comme il dit ?» Le capitaine Braden ne répondit rien, mais inclina la tête vers moi. Je le priai de parler ou s'il savait une telle chose, mais il ne fit qu'incliner la tête de nouveau. Non, dis-je, parler haut, et que le tribunal et le pays entendent, que l'inclination de la tête ne serve pas de réponse. Si j'ai fait cela, que la loi soit appliquée sur moi, je ne crains ni les souffrances, ni la mort même, car je suis un homme innocent quant à toutes ces accusations. Mais le capitaine Braden n'en témoigna jamais. Le juge, voyant que ces pièges ne prendraient pas, cria « Emmenez-le, geôlier », et quand on nous eut emmenés, il nous infligea une amende de 20 marks chacun pour n'avoir pas ôté nos chapeaux, à être gardés en prison jusqu'à paiement, et nous renvoya à la geôle. La nuit, le capitaine Braden vint nous voir, et avec lui 7 ou 8 juges de paix, qui furent très courtois envers nous, et nous dirent qu'ils croyaient que ni le juge ni personne au tribunal n'ajoutait foi à ces accusations dont le major Sealy m'avait chargé devant tout le pays. Et le capitaine Braden dit que le major Sealy avait eu l'intention de m'ôter la vie s'il avait pu obtenir un autre témoin. « Mais dis-je, capitaine Braden, pourquoi n'avez-vous pas témoigné pour moi ou contre moi, puisque le major Sealy vous a produit comme témoin, disant que vous m'aviez vu le frapper ? Quand je vous ai désiré de parler soit pour moi soit contre moi, selon ce que vous aviez vu ou su, vous n'avez pas voulu parler. Parce que, dit-il, quand le major Sealy et moi sommes passés près de vous, tandis que vous marchiez sur le Castle Green, il a ôté son chapeau devant vous et a dit, « Comment allez-vous, M. Fox, votre serviteur, monsieur ?» Alors vous lui avez dit, « Major Sealy, prenez garde à l'hypocrisie et à un cœur pourri, car depuis quand suis-je votre maître et vous mon serviteur ? Des serviteurs cherchent-ils à jeter leur maître en prison ? C'est là le grand coup qu'ils prétendaient que vous lui aviez porté. » Je me rappelais alors qu'il était passé près de nous, et que Sealy m'avait parlé ainsi, et moi à lui, hypocrisie et cœur pourri qu'il montra au grand jour lorsqu'il se plaigne de cela au juge en pleine cour et devant tout le pays, et aurait voulu leur faire croire à tous que je l'avais frappé de la main. Or nous étions gardés en prison, et beaucoup venaient de loin et de près pour nous voir, parmi lesquels quelques personnes de rang notable dans le monde, car le récit de notre procès s'était répandu, et l'on parlait en ville et à la campagne de notre hardiesse et de notre innocence dans nos réponses aux juges et au tribunal. Entre autres, un frileux vint nous rendre visite, homme grave, sobre, d'un âge avancé, qui avait été juge de paix, et qui était très peiné de nous savoir en prison, nous disant combien nous serions utiles si nous étions en liberté. Nous raisonnâmes avec lui au sujet des serments, et lui fîmes savoir qu'on nous avait présenté le serment d'abjuration comme un piège, parce qu'il savait que nous ne pouvions pas jurer, et nous lui montrâmes qu'aucun peuple ne pouvait être utile à Dieu s'il désobéissait au commandement du Christ, et que ceux qui nous emprisonnaient parce que nous ne retirions pas nos chapeaux, ce qui est un honneur rendu aux hommes, et que les hommes recherchaient cet honneur, emprisonnaient les justes, et affligeaient en eux-mêmes l'Esprit de Dieu, qui aurait dû tourner leurs pensées vers lui. Ainsi nous le dirigeâmes vers l'Esprit de Dieu dans son cœur, la lumière de Jésus-Christ, et il en fut pleinement convaincu, et le demeura jusqu'à sa mort, et devint très utile pour nous. Vint aussi nous voir un certain colonel Rouse, juge de paix, avec une grande compagnie. Il était aussi rempli de paroles et de bavardages que je n'ai jamais entendu aucun homme de ma vie, si bien qu'on ne pouvait pas lui parler, Enfin, je lui demandai s'il était jamais allé à l'école et s'il connaissait la différence entre des questions et des réponses. Je disais cela pour l'arrêter. À l'école, dit-il, oui, à l'école. Dirent les soldats, osent-ils questionner notre colonel, qui est un savant? Alors je dis, s'il est un savant, qu'il se tait et qu'il reçoive des réponses à ce qu'il a questionné. Alors je fus poussé par le Seigneur à lui dire la parole de vie dans la terrible puissance de Dieu. Elle s'abattit sur lui à tel point qu'il ne put ouvrir la bouche. Son visage enfla et devint rouge comme un dindon. Ses lèvres bougeaient et il marmonnait quelque chose, mais les gens pensaient qu'il allait tomber. Je restai près de lui et il dit ensuite qu'il n'avait jamais été ainsi affecté de sa vie, car la puissance du Seigneur avait arrêté en lui la puissance mauvaise et l'air, de sorte qu'il était presque étouffé. Cet homme fut ensuite très affectueux envers les amis et ne fut plus aussi plein de paroles vaines avec nous, quoique rempli d'orgueil, mais la puissance du Seigneur vint sur lui comme sur les autres qui étaient avec lui. Une autre fois, un officier de l'armée vint nous rendre visite. C'était un professeur très malveillant et aimé que j'avais connu à Londres. Il était plein de discours vains, parlait légèrement de la lumière du Christ et contre la vérité, comme l'avait fait le colonel Rouse, et contre l'Esprit de Dieu étant dans les hommes comme au jour des apôtres, jusqu'à ce que la puissance de Dieu, qu'il y ait le mal en lui, l'eût presque étouffé, comme elle l'avait fait au colonel Rouse. Car il était si rempli d'un mauvais air qu'il ne pouvait parler, mais bégayait et balbutiait. Depuis que la puissance du Seigneur l'avait frappé et l'avait saisi, il avait été plus affectueux envers nous. Les assises étaient terminées, et nous comprîmes qu'il n'était guère probable que nous fussions relâchés de prison de sitôt. Aussi cessâmes-nous de donner au geôlier 7 shillings par semaine chacun pour nos chevaux, et 7 shillings par semaine pour nous-mêmes, et envoyâmes nos chevaux à la campagne. Cela le rendit très méchant et diabolique, et il nous fit descendre à Domsdale, un endroit infect puant, où l'on mettait d'ordinaire les sorcières et les meurtriers après qu'ils avaient été condamnés à mourir. Le lieu était si malsain qu'on disait que peu en sortaient jamais en bonne santé. Il n'y avait pas de latrine, et les excréments des prisonniers, qui de temps à autre y avaient été mis, n'avaient pas été évacués à ce qu'on nous dit depuis de nombreuses années. De sorte que tout était comme de la boue, et en certains endroits l'eau et l'urine montaient jusqu'au-dessus des chaussures, et il ne voulut pas nous laisser le nettoyer, ni nous permettre d'avoir des lits ou de la paille pour nous coucher. La nuit, des gens amicaux de la ville nous apportèrent une bougie et un peu de paille, et nous entreprîmes d'en brûler un peu pour chasser la puanteur. Les voleurs couchaient au-dessus de nos têtes, et le chef geôlier, dans une chambre voisine au-dessus de nos têtes aussi. Il semble que la fumée monta dans la chambre où le geôlier couchait, ce qui le mit dans une telle rage qu'il prit les pots d'excréments des voleurs et les versa par un trou sur nos têtes, dans Domsdale, jusqu'à ce que nous fussions si éclaboussés que nous ne pouvions ni nous toucher nous-mêmes, ni nous toucher l'un l'autre. Et la puanteur augmenta sur nous, si bien qu'entre la puanteur et la fumée, nous étions presque étouffés et suffoqués. Nous avions auparavant la puanteur sous nos pieds, à présent nous l'avions aussi sur nos têtes et sur nos dos, et ayant éteint notre paille avec l'ordure qu'il avait versée, il avait fait une grande suffocation dans le lieu. En outre, il nous injuria de la manière la plus hideuse, nous appelant chiens au visage de hache, et d'autres noms étranges que nous n'avions jamais entendus. De cette façon, nous fûmes contraints de rester debout toute la nuit, car nous ne pouvions pas nous asseoir, tant l'endroit était rempli d'immondices. Longtemps il nous maintint dans cet état avant de nous laisser le nettoyer, ou de permettre qu'on nous apporte de la nourriture autrement que par la grille de la fenêtre. Une fois, une fille nous apporta un peu à manger, et il l'arrêta pour effraction chez lui, et la poursuivit au tribunal de la ville pour effraction dans la prison. Il causa à cette jeune femme beaucoup d'ennuis. Dès lors, les autres furent si découragés que nous eûmes beaucoup de peine à obtenir de l'eau, à boire ou à manger. À cette époque, nous fîmes venir de Londres une jeune femme, Anne Downe, qui savait écrire et prendre les choses en sténographie, pour acheter et préparer notre viande. Elle le fit très volontiers pour nous, parce qu'elle avait aussi en son esprit de venir à nous dans l'amour de Dieu, et elle nous fut très utile. Le chef geôlier, nous dit-on, avait été voleur, et avait été marqué au fer, pour le marquer à vie comme voleur à la main et à l'épaule. Sa femme aussi avait été marquée à la main. Le sous-geôlier avait été marqué au fer à la main et à l'épaule. Sa femme avait aussi été marquée à la main. Le colonel Bennet, un maître baptiste ayant acheté la prison et les terres appartenant au château, y avait placé ce chef geôlier. Les prisonniers et quelques gens farouches parlaient d'esprits qui hantaient Domsdale et de combien y étaient morts, pensant peut-être nous effrayer. Mais je leur dis, quand bien même tous les esprits et tous les diables de l'enfer s'y trouveraient, je suis au-dessus d'eux dans la puissance de Dieu, et je ne crains rien de tel, car le Christ, notre prêtre, sanctifiera pour nous les murs de la maison, lui qui a écrasé la tête du diable. Sous la loi, le prêtre devait purifier les murs de la maison de la peste, ce que le Christ, notre prêtre, a aboli, lui qui sanctifie intérieurement et extérieurement les murs de la maison, les murs du cœur et toutes choses pour son peuple. Comme approchait le temps des sessions générales du trimestre, et parce que le geôlier continuait de se conduire bassement et méchamment envers nous, nous rédigeâmes le récit de nos souffrances et l'envoyâmes aux sessions à Bodmin. À la lecture de quoi, les juges rendirent un ordre, que la porte de Dormsdale soit ouverte et que nous ayons liberté de le nettoyer et d'acheter notre viande en ville. Nous envoyâmes aussi au protecteur une copie de nos souffrances, relatant comment nous avions été arrêtés et incarcérés par le major Seely, et maltraités par le capitaine Kit, comme dit plus haut, et tout le reste des mauvais traitements dans l'ordre chronologique. Sur quoi le protecteur envoya un ordre au capitaine Fox, gouverneur du château de Pandénie, d'examiner l'affaire des soldats nous maltraitant et me frappant. À ce moment-là, beaucoup de gentilshommes du pays se trouvaient au château, et le parent du capitaine Kit, celui qui m'avait frappé, fut mandé devant eux et fortement menacé. Ils lui dirent, si je devais changer de principe, je pourrais demander contre lui la peine la plus sévère que la loi permet, et je pourrais obtenir réparation. Le capitaine Kit fut aussi repris pour avoir permis que les prisonniers sous sa garde soient maltraités. Cela rendit un grand service dans le pays, car ensuite les amis auraient pu parler dans n'importe quel marché ou maison à clocher des environs, et personne ne les aurait molestés. J'appris que Hugh Peters, l'un des chapelains du protecteur, lui avait dit « Il ne pourrait rendre à George Fox un plus grand service pour la diffusion de ses principes en Cornouailles que de l'y emprisonner. » Et en effet, mon emprisonnement là-bas venait du Seigneur, et pour son service dans ces régions, car après la fin des assises, et lorsqu'on sut que nous allions vraisemblablement demeurer prisonniers, plusieurs amis, de la plupart des parties de la nation, vinrent dans le pays pour nous rendre visite. Ces régions de l'Ouest étaient alors de fort sombres contrées. Mais la lumière et la vérité du Seigneur jaillirent, brillèrent sur tous, et beaucoup furent tournés des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Beaucoup furent poussés à aller aux maisons à clocher, plusieurs furent envoyés en prison avec nous, et un grand éveil commença dans le pays, car maintenant nous avions la liberté de marcher sur le Castle Green, et beaucoup de gens venaient à nous les First Days, à qui nous annoncions la parole de vie. De grands services furent rendus, et beaucoup furent tournés vers Dieu, partout dans le pays. Mais une grande rage s'éleva chez les prêtres et les professeurs contre la vérité et contre nous. L'un de ces professeurs envieux avait rassemblé quantité de phrases de l'Écriture pour prouver que nous devions ôter nos chapeaux devant les gens, et il invita la ville de Launceston à venir dans la cour du château pour l'entendre les lire. Parmi les exemples qu'il cita, il y avait que Saül s'inclina devant la sorcière d'Endor. Quand il eut fini, on nous donna un peu de liberté de parler, et nous lui montrâmes, à lui et au peuple, que Saül avait quitté la faveur de Dieu et lui avait désobéi, comme eux lorsqu'il alla vers la sorcière d'Endor, que ni les prophètes, ni le Christ, ni les apôtres n'ont jamais enseigné aux gens à s'incliner devant une sorcière. L'homme s'en alla avec ses gens grossiers, mais quelques-uns restèrent avec nous, et nous leur montrâmes qu'il ne s'agissait pas d'un enseignement de l'Évangile que d'apprendre aux gens à s'incliner devant une sorcière. Car maintenant les gens commençaient à être touchés par la vérité, et la rage du diable augmentait, si bien que nous étions souvent en grand danger. Un juge de paix vint nous visiter depuis le pays de Galles, il devint un excellent ministre et en tourna beaucoup vers l'Esprit de Dieu, afin de s'asseoir sous l'enseignement du Christ. Ces personnes subirent alors l'emprisonnement. L'une d'elles convainquit trois prêtres, et l'un devint un excellent ministre, demeurant jusqu'à ce jour. Une fois un soldat vint vers nous, et tandis qu'un de nos amis l'avertissait et l'exhortait à la sobriété, je le vis commencer à tirer son épée. Alors je me levai face à lui et lui représentai quelle honte c'était de tirer l'épée contre un homme sans épée, et un prisonnier, et combien il était inapte et indigne de porter une telle arme, et que s'il avait fait une telle chose à certains hommes, il lui aurait arraché son épée et l'aurait brisée en morceaux. Il en eut honte et s'en alla, et la puissance du Seigneur nous préserva. Une autre fois, vers 11 heures du soir, le geôlier, à moitié ivre, vint et me dit qu'il avait maintenant un homme pour disputer avec moi, c'était lorsque nous avions la permission d'aller un peu en ville. À peine eut-il prononcé ces mots, que je sentis qu'il y avait dans ses paroles un complot pour me faire du mal. Toute cette nuit-là, et le jour suivant, tandis que je m'allongeais sur une touffe d'herbe pour dormir, je sentis quelque chose autour de mon corps, et je me redressai et frappai contre cela dans la puissance du Seigneur, mais c'était toujours autour de mon corps. Alors je me levai et marchai jusqu'au Castle Green, et le sous-gardien vint me dire qu'une jeune femme souhaitait me parler dans la prison. Je sentis aussi un piège dans ses paroles, c'est pourquoi je n'entrai pas dans la prison, mais allai à la grille de la fenêtre, et quand je regardais à l'intérieur, je vis un homme qui avait été récemment mis en prison pour être un conjurateur, un médium qui utilise des pouvoirs surnaturels et qui tenait un couteau nu dans sa main. Je lui parlai et il me menaça de me couper les joues selon son expression, mais puisqu'il était à l'intérieur de la prison, il ne pouvait pas m'atteindre. C'était là le grand disputeur du geôlier. Peu après, j'entrai dans la maison du geôlier et le trouvai au petit déjeuner. Il avait avec lui ce même conjurateur, hors de prison. Je dis au geôlier que son complot avait été découvert. Alors il se leva de table et jeta sa serviette dans un accès de rage, et je l'ai quitté et m'en allai dans ma chambre, car à ce moment-là nous n'étions plus à Dormsdale. À l'heure où le geôlier avait dit que la dispute aurait lieu, je descendis et me mis à marcher dans la cour, le lieu fixé, jusqu'aux environs de 11 heures, mais personne ne vint. Alors je remontai dans ma chambre, et au bout d'un moment, j'entendis quelqu'un appeler mon nom. Je m'avançai jusqu'en haut de l'escalier, où je vis la femme du geôlier sur les marches, et le conjurateur était en bas de l'escalier, tenant sa main derrière son dos, dans une grande fureur. Je lui demandai, « Homme, ta main derrière ton dos, mets ta main devant, dis-je, faisons voir ta main et ce que tu y tiens. » Alors, furieux, il ramena sa main, avec un couteau nu dedans. Alors je montrai à la femme du geôlier leur mauvais dessein contre moi, car c'était cet homme qu'ils avaient amené pour disputer des choses de Dieu. Mais le Seigneur découvrit leur complot et empêcha leur mauvais dessein, et tous deux furent pris de rage, et le conjurateur me menaça. Alors je fus poussé par le Seigneur à lui parler sévèrement dans la terrible puissance du Seigneur, et la puissance du Seigneur vint sur lui, et le lia, si bien qu'ensuite il n'osa jamais paraître devant moi ni me parler. Je vis que c'était le Seigneur seul qui m'avait préservé de leurs mains sanglantes, car le diable avait une grande inimitié contre moi, et excitait ses instruments à chercher ma perte. Mais le Seigneur les en empêcha, et mon cœur fut rempli d'actions de grâce et de louanges envers lui. Plusieurs habitants de la ville vinrent à être convaincus de la vérité et devinrent très affectueux. L'épouse du juge, Agathe Vin de Bristol, nous visitait aux secondes assises, et elle fut convaincue, ainsi que plusieurs de ses enfants. Son mari devint alors très affectueux et très utile aux amis, car il avait un grand amour pour le peuple de Dieu, qu'il conserva jusqu'à sa mort, et ses enfants aussi. Et cette même année, Mary Fell, la fille de 8 ans du juge Fell, fut poussée à aller trouver le prêtre Lampitt, le prêtre de l'église indépendante calviniste que sa famille avait auparavant fréquenté, pour lui dire que le Seigneur répandrait sur lui les coupes de sa colère, et quand le roi revint, il perdit sa charge de prêtre. De la bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle, tu as fondé ta force à cause de tes ennemis, afin de réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Psa 8 de plus loin au sujet du jeune appelé par Dieu à son service, Patience Scott avait 11 ans et vivait à Providence, Rhode Island. Le Seigneur l'appela à aller à Boston, distante de 105 miles, où elle prêcha environ 3 semaines, avant d'être jetée en prison pour 3 mois par les magistrats puritains envieux. Lorsqu'elle fut interrogée, ses réponses dépassaient de si loin la capacité ordinaire d'un enfant de son âge, que le gouverneur reconnut qu'il y avait en elle un esprit au-delà de l'esprit d'une femme, mais étant aveugle et ne voyant pas Dieu perfectionner sa louange par la bouche de l'enfant, il dit que c'était le diable. William Robinson, écrivant à George Fox environ un mois après leur emprisonnement, y fait ainsi allusion. « Voici une fille de Catherine Scott qui est prisonnière dans la maison du geôlier. C'est une bonne enfant et elle est bien traitée. Elle a environ 11 ou 12 ans et elle a bon entendement. Après un emprisonnement d'environ 3 mois, Patience Scott fut amenée pour être jugée. Le tribunal, toutefois, était quelque peu embarrassé par son cas. Bannir formellement une simple enfant pour avoir professé le cacrisme avait trop du ridicule pour être appliqué, et l'on conclut finalement à la relâcher. Le procès-verbal établi à cette occasion fut singulier. Le tribunal, considérant du malice de Satan et de ses instruments, qui par tous moyens et toutes voies, cherchent à propager l'erreur, à troubler la vérité et à introduire la confusion parmi nous, que Satan en ait réduit à ses expédients au point de se servir d'une telle enfant, n'ayant pas l'âge de discernement, ni la compréhension des principes de la religion, juge à propos de la négliger à ce point comme Quake, qu'il ne fait que l'admonester et l'instruire seul. Le fait qu'une personne aussi jeune qu'elle ait été appelée au ministère n'est pas un cas isolé dans l'histoire des Quakers. George Newland, un jeune homme d'Irlande, entra dans ce service évangélique à sa 12e année. Il mourut vers l'âge de 19 ans, et environ 6 ans avant sa mort, il travailla dans les églises de son pays natal, pour le réconfort et l'édification de ses amis. Ellie Lewis, du nord du pays de Galles, se sentit contraint de s'engager dans le ministère à sa 13e année. Sa première communication fut faite en langue anglaise, qu'il ne connaissait pas bien, et on dit qu'elle fut remarquable et touchante. Un autre exemple de consécration précoce et de soumission à cet appel divin fut celui du célèbre William I, de Caroline du Nord. Il entreprit des travaux évangéliques vers 14 ans. À l'âge de 11 ans, il eut des ouvertures remarquables dans les choses divines, Christiana Barclay, fille de Robert Barclay l'apologiste, entra aussi dans cette œuvre importante vers 14 ans. Beaucoup d'autres jeunes personnes parmi les amis, dans leurs 14e, 15e, 16e et 17e années, il est bien connu, furent également appelés par celui dont l'esprit souffle où il veut, à annoncer à d'autres les richesses insondables de son royaume céleste. Or, tandis que je recevais la visite de personnes de diverses sortes, les unes étant venues avec bonne volonté pour nous voir, d'autres avec un esprit envieux et chicaneur pour créler et disputer avec nous, et d'autres par curiosité pour nous voir, Edward Pio, qui avant sa conviction avait été capitaine dans l'armée, et qui avait une bonne connaissance des lois et des droits du peuple, étant sensible à l'injustice et à l'envie du juge Glin envers nous lors de notre procès, prit sur lui de tâcher de rendre Glin sensible à ces injustices. Amis, nous sommes des hommes libres d'Angleterre, nés libres, nos droits et nos libertés sont selon la loi, et doivent être défendus par elle. C'est pourquoi avec vous, par la main de qui nous avons si longtemps souffert et souffrons encore, raisonnons un peu clairement sur vos procédés contre nous, pour savoir s'ils ont été conformes à la loi, et accordés à votre devoir et à votre charge, comme principal ministre de la loi ou de la justice d'Angleterre. Demeurez dans la douceur et l'humilité, afin que le témoin de Dieu dans votre conscience puisse être entendu pour parler et juger en cette affaire, car vous et nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, soit bien soit mal. C'est pourquoi, amis, pesez avec modération et sobriété ce qui est contenu dans cette lettre qui vous est envoyée. L'après-midi, avant que nous fussions conduits devant vous aux assises de Launceston, vous avez ordonné que plusieurs dizaines de nos livres nous soient arrachés violemment par des hommes armés, sans procédure légale régulière. Ces livres furent examinés pour voir si l'on pouvait y trouver quelque chose pouvant être mis à notre charge, nous qui étions des hommes innocents. Et ensuite, quant à notre question juridique, vous nous avez retenu les chefs d'accusation jusqu'à ce jour. Nos livres sont nos biens sont notre propriété, et c'est notre liberté de posséder et de jouir de notre propriété. Et la loi est la défense de notre liberté et de notre propriété, laquelle dit « Aucun homme libre ne sera privé de son frontonnement, de ses libertés ou de ses coutumes libres, etc. ni en aucune manière autrement détruit, et nous ne passerons pas sur lui, sinon par le jugement légal de ses pairs ou par la loi du pays. » Magna Charta chap. 29. Or, amis, considérez, n'est-il pas contraire à la loi du pays d'enlever violemment les biens d'un homme, par la force des armes, comme il a été dit ? Et conserver ses biens ainsi enlevés, n'est-ce pas le priver de sa propriété, et la détruire, et détruire aussi sa liberté, oui, son être même, dans la mesure où l'invasion de la garde que la loi place autour de lui va jusque-là, la loi n'appelle-t-elle pas cela la destruction d'un homme ? Y a-t-il plus d'une garde commune ou d'une défense pour la propriété, la liberté et la vie, à savoir la loi ? Et cette garde peut-elle être brisée pour les premières, c'est-à-dire la propriété et la liberté, et la seconde, c'est-à-dire la vie demeurée sûre. Celui qui envahit la propriété et la liberté d'un homme, ce qu'il fait, qui, contrairement à la loi, laquelle est la garde, agit contre l'une ou l'autre, n'envahit-il pas la vie d'un homme, puisque ce qui est le fondement de l'une l'est aussi de l'autre? Si un penny ou l'équivalent d'un penny est pris à un homme contrairement à la loi, ne peut-on pas, par la même règle, lui enlever tout ce qu'il possède? Si le lien de la loi est rompu quant à la propriété d'un homme, ne peut-il pas, sur le même fondement, être rompu quant à sa personne? Et par la même raison qu'il est rompu envers un homme, ne peut-il pas l'être envers tous, puisque la liberté, la propriété et l'être de tous les hommes sous un gouvernement sont liés, une communion de biens, comme les membres dans le corps, et qu'il n'y a qu'une garde et une défense pour tous, la loi. Un seul homme ne peut être lésé en cela sans que cela retombe sur tous. De telles choses ne tendent-elles pas à la subversion et à la dissolution du gouvernement, là où il n'y a pas de loi, qu'est devenu le gouvernement, et quelle valeur a une loi, lorsque les ministres de celle-ci la brisent à leur gré sur les propriétés, les libertés et les personnes des hommes? Pouvez-vous vous purifier de ces choses à notre égard? C'est à ce qui est de Dieu dans votre conscience, qui est juste, que je parle. Avez-vous agi comme un ministre, le principal ministre de la loi, vous qui avez pris nos biens et les retenez encore, sans même passer par un mandat légal, fondé sur une information d'humte obtenue, ce que, dans notre cas, vous ne pouviez avoir puisque personne ne les avait examinés pour vous fournir une information? Deviez-vous exercer violence et force armée sur les biens de prisonniers, dans leurs chambres de prison, au lieu de procéder avec ordre et légalement, ce que votre charge vous impose plus qu'à aucun homme de traiter, défendre et maintenir contre l'injustice, et de préserver et garder entièrement l'être, la liberté et les moyens d'existence de chacun? Deviez-vous, vous dont le devoir est de punir le malfaiteur, faire vous-même le mal, vous qui devez veiller à ce que la loi soit gardée et observée, briser la loi et détourner la juste administration de celle-ci? Assurément de vous, considérant que vous êtes grand juge d'Angleterre, on attendait d'autre chose, tant de nous que du peuple de cette nation. Et amis, quand nous avons été conduits devant vous et que nous nous sommes tenus sur notre question juridique, et qu'aucun accusateur ni aucune accusation n'est venue contre nous, quant à ce pourquoi nous avions été injustement emprisonnés et retenus en prison pendant 9 semaines, n'auriez-vous pas dû faire proclamer notre acquittement ? La loi ne le dit-elle pas ? N'auriez-vous pas dû examiner la cause de notre incarcération, et n'y apparaissant aucune cause légale, nous relâcher ? N'est-ce pas la substance de votre charge et de votre devoir de rendre justice selon la loi et la coutume d'Angleterre ? N'est-ce pas la fin de l'administration de la loi ? Des assises générales, des élargissements de prison, des juges parcourant les circuits, n'avez-vous pas, en agissant autrement, agi contrairement à tout cela et à la magna charta dont le chape 29 dit « Nous ne vendrons à aucun homme, nous ne refuserons ni ne différons à aucun homme, ni justice ni droit. » N'avez-vous pas à la fois différé et refusé à nous, qui avions été si longtemps opprimés, cette justice et ce droit, et lorsque nous vous avons demandé justice, n'avez-vous pas dit que, si nous nous découvrions en ôtant nos chapeaux, vous nous entendriez et nous rendriez justice ? Ne vendrons à aucun homme, nous ne refuserons ni ne différons à aucun homme, ni justice ni droit, dit la magna charta comme il a été dit. Encore, nous avons commandé à tous nos juges qu'ils fassent désormais une loi égale et l'exécution du droit à tous nos sujets, riches et pauvres, sans avoir égard à la personne de quiconque, et sans être empêchés de faire droit par aucune lettre ou commandement qui pourrait leur venir de nous ou de tout autre, ou par toute autre cause, sous peine d'être à notre volonté de corps, terres et biens, pour enfin. 20 Aedout 3, chap. 1 Encore, vous jurez que vous ferez une loi égale et l'exécution du droit à tous, riches et pauvres, sans avoir égard à aucune personne, et que vous ne refuserez à aucun homme le droit commun par les lettres du roi, ni par celles d'aucun autre, ni pour aucune autre cause. Et au cas où une lettre vous viendrait contraire à la loi, vous ne ferez rien par une telle lettre, mais vous en informerez le roi, et irez faire la loi nonobstant ces lettres. Et au cas où vous seriez désormais trouvé en défaut en l'un des points ci-dessus dits, vous serez à la volonté du roi de corps, terres et biens, pour en faire ce qui lui plaira, dit le serment prescrit par le statut, apprêté par tous les juges. Sta 18 Ed 3. Mais aucune de ces lois, ni aucune autre, ne contient une expression ou une condition comme celle-ci, pourvu qu'il ôte son chapeau devant vous ou se découvre. La loi de Dieu ne le dit pas non plus, ni que vos personnes doivent être respectées, mais le contraire. D'où vient donc cette nouvelle loi ? Si vous vous découvrez, je vous entendrai et je vous rendrai justice. Entendre une plainte d'injustice, faire justice sous condition, où est l'équité et le raisonnable de cela ? Quand ces lois fondamentales ont-elles été abrogées, elles qui furent le fruit de tant de sang et de guerre, et dont le maintien coûta les misères et le sang des dernières guerres, pour qu'à présent nous ne soyons entendus quant au droit, et que justice nous soit rendue, que sous condition, et encore une condition aussi futile que d'ôter son chapeau. Votre parole, vous qui êtes commandés comme il a été dit, les abroge-t-elle et les rend-elle sans effet, et rend-elle vain toutes les misères subies, et le sang versé pour elles autrefois et ces dernières années ? Que cela soit ainsi ou non en réalité, et pour la nation, vous l'avez fait ainsi pour nous. À nous, vous avez refusé la justice de notre liberté quand nous avons été devant vous, et qu'aucun accusateur ni aucune accusation n'est venu contre nous, et vous avez refusé d'entendre l'injustice qui nous avait été faite, nous qui sommes innocents, et de nous faire droit. Et vous avez jeté et maintenu des liens sur nous jusqu'à ce jour, sous un geôlier déraisonnable et cruel, pour n'avoir pas rempli cette condition, par scrupule de conscience. Mais pensez-vous que votre justice conditionnelle annule la loi, ou peut-elle le faire, ou vous absoudre devant Dieu ou devant les hommes, ou vous acquitter de la peine mentionnée dans les lois ci-dessus, auxquelles n'avez-vous pas consenti et juré ? À savoir, et au cas où vous seriez désormais trouvé en défaut en l'un des points ci-dessus dits, vous serez à la volonté du roi, de corps, terres et biens, pour en faire ce qui lui plaira. Et votre parole, si vous vous découvrez ou ôtez vos chapeaux, je vous entendrai et je vous rendrai justice. Et parce que nous ne pouvions les ôter par scrupule de conscience, votre refus de nous rendre justice et d'entendre notre plainte d'injustice, nous qui avions souffert si injustement, n'est-ce pas un défaut de votre part contre l'essence même de ces lois ? Oui, un renversement de ce pourquoi ces lois, si justes, si égales, si nécessaires, furent faites, et de toutes les dispositions qu'elles contiennent. Manquer à un seul point de ces dispositions expose à ladite peine. Ne voyez-vous pas, à présent, où vous en êtes ? Êtes-vous sûr que vous ne serez jamais amené à comprendre et à ressentir la justice de cela ? Votre siège est-il si haut et votre clôture si grande ? Et êtes-vous si assuré de votre temps et de votre position, au-dessus de tous ceux qui vous ont précédé, que la justice a abattu et auxquels elle a rendu leur dû, que vous ne serez jamais appelé à rendre compte, ni atteint par son coup long et certain ? Ne vous trompez pas, Dieu est venu plus près du jugement que les ouvriers d'iniquité en cet âge ne l'imaginent, eux qui persécutent et maltraitent ceux qui rendent témoignage aux justes et aux saints, pour le témoignage qu'ils rendent de lui, lui qui est venu pour régner au siècle des siècles. N'a-t-il pas dit qu'il serait un prompt témoin contre les faux jureurs? On ne se moque pas de Dieu. Retour suivant.